Monsieur le recteur de l'Université de Neuchâtel, Monsieur le Président de la Ville de Neuchâtel, Monsieur l'Attaché de coopération scientifique et universitaire de l'Ambassade de France, Madame la Vice-Présidente du Sénat, chers collègues, chers membres de la Société des Alumni, diplômés et amis de l'Université de Neuchâtel, Mesdames et Messieurs, la Société des Alumni, diplômés et amis de l'Université de Neuchâtel, SAN, pour l'acronyme, est très heureuse de vous accueillir ce soir pour une première grande conférence. Fondée en 1889, la SAN a pour but, comme le précisent ses statuts, de contribuer au développement et au rayonnement de l'Université de Neuchâtel. Ses 650 membres lui permettent de soutenir des projets scientifiques et de récompenser l'excellence au sein de l'Université de Neuchâtel par toute une série de prix et de prix d'excellence qui seront remis ces prochains jours lors de la remise des diplômes. « Rien n'est inutile, pas même l'inutilité », écrivait Montaigne, qui nous rappelle que tout sert dans la réalité et que la complexité du réel met toujours à défaut nos a priori. À une époque qui confond souvent vitesse et compétences, argent et connaissances, rentabilité et durabilité, la SAN a voulu proposer un instant de réflexion sur la notion d'utilité que certains croient évidente, mais qu'il importe de remettre en question. En effet, il est une prétendue rentabilité qui ne brasse que de l'air. Il est aussi une apparente inutilité qui transforme durablement les esprits, qui façonne les imaginaires et nourrit profondément les consciences. Notre société de la ligne droite, toujours plus téléologique, qui ne connaît plus les vertus du zigzag, a besoin plus que jamais d'un discours paradoxal qui nous invite à concevoir comme complexe ce qu'il est. Un discours qui nous rappelle que c'est la quête de la vérité, non sa possession, qui donne sens à une existence. C'est à cette problématisation des limites entre l'utile et l'inutile et à une saine critique de l'obsession contemporaine du quantifiable que nous invite un tout petit grand livre, « L'utilité de l'inutile », paru en 2013 en Italie chez Bompiani. Cette soirée entend dépasser les critères quantitatifs, mais vous me permettrez tout de même une concession à ces critères quantitatifs. En 3 ans, ce tout petit grand livre en est au 16e retirage en italien, au 9e retirage en français, 19 traductions diffusées dans plus de 26 pays. Voilà pour les critères quantitatifs. Quant à l'essentiel, c'est-à-dire au contenu, à l'impondérable, il tient surtout à un éloge de la gratuité et du désintéressement, fécond, un éloge de ces grands auteurs qui ne laissent pas indemne le lecteur et qui élargissent son esprit pour le rendre curieux, critique, autonome et enfin solidaire. La SAN a l'honneur et le très vif plaisir d'accueillir l'auteur de ce petit grand livre, Nuccio Ordine. Nuccio Ordine est avant tout professeur de littérature italienne à l'Université de Calabre. Il a été visiting professor dans les plus grandes universités américaines et européennes, par exemple au Warburg Institute ou à l'Institut Max Planck de Berlin. Récemment, ces tout derniers mois, professeur invité au Brésil, au Mexique et à l'Université de Paris 4. C'est ensuite un éminent spécialiste de la Renaissance, notamment de Giordano Bruno, à qui il a consacré de très nombreuses monographies traduites dans plusieurs langues, dont le chinois, dont le russe. Je n'en citerai que quelques-unes. Le Seuil de l'ombre, paru en 2003, Le mystère de l'âne, paru en 1987 pour l'édition originale, Contro il Vangelo armato, contre l'évangile armé, Giordano Bruno, Ronsard et la religion, Le rendez-vous des savoirs et quantité d'autres monographies, comme tout récemment l'édition augmentée de 3 couronnes pour un roi. Et encore plus récemment, Une année avec les classiques, en 2015, dont il nous a parlé hier à l'université et qui connaît déjà 5 traductions. Nuccio Ordine ne se contente pas d'être un spécialiste de la Renaissance, c'est aussi un éditeur très actif qui dirige 3 collections des belles lettres et qui fonde, en novembre 2015, avec Umberto Eco, une nouvelle maison d'édition à Milan, La Nave di Teseo. Chez Bompiani, il publie de très nombreuses éditions bilingues, prestigieuses, des grands penseurs de la littérature et de la pensée européenne. Campanella, Cervantes, Rabelais, Montaigne, Spencer, Shakespeare, le théâtre espagnol et j'en passe. Nous avons le plaisir donc d'accueillir, vous l'aurez compris, un passeur donc à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l'histoire de la pensée, soucieux d'actualiser les vérités que nous proposent les grands textes. Cher Nuccio, c'est un plaisir de te céder la tribune. Nous avons hâte de t'écouter et de t'entendre.
Bonsoir, et pour moi c'est une grande joie d'être ici ce soir chez vous, et je remercie mon ami Loris Petris pour cette présentation qu'au fond vaut par elle le voyage de Calabre jusqu'ici, parce que c'est lointain, et je voudrais remercier le recteur de l'université, le professeur Kilian Stoffel, et le président de la ville de Neuchâtel, les collègues et les amis qui m'ont donné l'honneur d'être ici ce soir. Bien, je voudrais tout de suite rentrer dans le cœur de ce discours, et il faut partir justement du titre, parce que le paradoxe de l'utilité dont je voudrais vous parler ici n'a rien à voir avec celle au nom de laquelle les savoirs humanistes et de manière plus générale, les savoirs qui ne produisent aucun profit, en vient à être considérés comme inutiles. Et au même temps, je voudrais dire une chose qui est très importante, c'est-à-dire que de plus en plus, l'environnement politique, social, économique dans lequel nous vivons est soumis à la dictature du profit. Mais qu'on entende bien, parce que parfois dans les conférences, il y a eu des malentendus. Le profit est légitime quand il est un moyen et non un fin en soi. Adam Smith lui-même, souvent mal compris par ses propres disciples, était conscient de la différence qu'il y a entre l'avidité égoïste dépourvu de moralité et la prudence avec laquelle l'individu vertueux recherche son intérêt. Ça, c'est un point pour moi très important. Au lieu de servir la croissance de l'humanité, le profit pour le profit, quand il s'affranchit de toute obligation sociale et éthique, peut, du fait même de son caractère prédateur, entraîner la destruction de la civilisation et faire que là où était l'esprit, il n'y a plus qu'un désert. Et ça, c'est un problème dans lequel nous vivons tous les jours aujourd'hui. Donc, j'ai voulu réfléchir sur l'idée d'une utilité de ce savoir dont la valeur essentielle aujourd'hui est complètement détachée de toute finalité utilitaire. Nous avons des savoirs par nature gratuit, désintéressé et éloigné de toute obligation pratique, qui peuvent jouer un rôle fondamental, à mon avis, dans la formation de l'esprit et dans l'élévation du niveau de civisme et de civilisation de l'humanité. Donc, la littérature, l'art, la musique peuvent rendre l'humanité plus humaine. Et ça, c'est une utilité immense qu'aujourd'hui, nous avons perdu de vue. Et dans cette perspective, donc, je considère comme utile tout ce que nous aide à devenir meilleurs. Mais la logique du profit, malheureusement, est en train de détruire ces institutions comme les écoles, les universités, les centres de recherche, les musées, les bibliothèques, et les disciplines humanistes et scientifiques, dont la valeur devrait ne résider que dans le savoir pour le savoir. Donc, indépendamment de toute capacité de produire du profit, c'est-à-dire de l'argent. Bien sûr, Le musée, les sites archéologiques peuvent être très souvent dégagés des bénéfices considérables, mais leur existence même ne saurait être subordonnée au montant de leurs recettes. Ça, pour moi, c'est une chose importante. Je pense que la vie d'un musée ou d'un chantier de fouilles archéologiques est un trésor que la collectivité doit jalousement préserver à tout prix. Voilà pourquoi il n'est pas vrai qu'en temps de crise économique, tout soit permis. Je ne crois pas que la variation du spread, c'est un mot que tout le monde connaît aujourd'hui, quand je faisais l'école et l'université, ce mot personne ne le connaissait, mais aujourd'hui tout le monde le connaît, aussi le boulanger en bas de chez moi, il me parle de ça. Et donc le spread, ce n'est pas, je ne crois pas que les variations du spread puissent justifier l'écrasement systématique des savoirs inutiles. Le rouleau compresseur de la rigueur et de la réduction des dépenses épargne paradoxalement la corruption galopante que nous avons dans tous les pays européens et les rémunérations fabuleuses. Je pense par exemple en Italie ou ailleurs, les rémunérations de certains politiciens, de ménagères, de banquiers, qui est vraiment au-delà. Avec des chiffres aujourd'hui incroyables. Donc il n'est plus possible, à mon avis, d'ignorer la destruction systématique de toute forme d'humanité et de solidarité. À l'instar de Shylock dans Le Marchand de Venise, les banques et les créanciers réclament impitoyablement une livre de chair aux débiteurs qui ne peut pas la rembourser, en transformant les hommes en marchandises et en argent. Donc ce mécanisme économique que nous voyons tous les jours sous nos yeux a donné vie à un monstre sans pitié qui finira par ôter tout espoir, même aux générations futures. Face à une telle brutalité dans laquelle nous sommes confrontés tous les jours, l'utilité des savoirs inutiles peut s'opposer radicalement à l'utilité dominante. Qui, au nom d'intérêts purement économiques, est en train de tuer progressivement la mémoire du passé, les disciplines humanistes, les langues classiques, l'instruction, l'art, la pensée critique et les conditions de la civilisation qui devrait être l'horizon de toute activité humaine. Mais avant de rentrer dans le spécifique de mon discours, et donc dans la défense des savoirs soi-disant inutiles, je voudrais m'arrêter un petit moment sur les transformations de l'école et de l'université en entreprise. Nous sommes là entre collègues, je vois des étudiants, donc c'est l'endroit où il faut discuter, il faut parler de ça. Alors, d'abord, je commence avec le lexique. Est-ce que c'est possible que les premiers mots qu'un étudiant entend quand il s'inscrit à l'université, c'est « dette » et « crédit » Est-ce que c'est possible que le langage que nous prenons, par exemple, je ne sais pas, en Suisse, mais en Italie, quand un professeur universitaire présent ses travaux pour l'évaluation, on appelle les travaux « produits ». C'est-à-dire, nous allons employer un langage qui vient d'un monde, le monde de l'économie. Eh bien, de l'autre côté, je pense que les universités et les écoles ne peuvent pas être gérées comme des entreprises, parce que le but est différent. Je vais vous donner un exemple. Dans certaines universités, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais ailleurs, j'ai trouvé plusieurs exemples de tout ça. Là, alors, quand il y a une entreprise, s'il y a une branche qui ne produit pas, qu'est-ce qu'on fait? On la coupe. Alors, imaginez-vous, par exemple, à l'école orientale à Venise, qui est une école très importante en Italie, il y a un professeur de sanskrit, qui est une langue très importante, et deux élèves. Le recteur de l'université ou le conseil d'administration peut bien dire, on ne peut pas se permettre le luxe de payer un professeur pour des élèves. Donc, on va couper. Alors on coupe le sanskrit, après on va couper le latin, après on va couper le grec, après on va couper toute une série de langues anciennes. La question c'est qu'en faisant comme ça, nous allons créer un vide de mémoire dans notre culture et dans notre société. Parce que c'est la façon de détruire le passé. Et aujourd'hui, la chose plus importante, c'est de faire comprendre que sans le passé, on ne peut pas comprendre le présent et prévoir le futur. Dans l'Olympe des dieux, dans la mythologie, la déesse plus importante était Mnemosyne, c'est-à-dire la déesse de la mémoire. C'était la mère des 9 muses, donc de tous les savoirs. Pourquoi ? Parce que la mémoire est quelque chose de très important. Le drame, c'est que de plus en plus, les professeurs deviennent des bureaucrates au service de la gestion commerciale universitaire. Dans plusieurs universités, dans plusieurs pays, ils passent toute la journée à remplir des dossiers, à faire des calculs, à produire des rapports, à préparer des projets pour obtenir des subsides misérables parfois, à interpréter circulaires ministérielles. Je peux vous dire, en Italie, il y a des spécialistes pour ça, parce que c'est un langage très rabelaisien. Quand on va lire les circulaires du ministère qui arrivent dans les universités, eh bien, le fait même de perdre de vue la chose qu'à mon avis doit être la plus importante dans l'école et l'université, c'est-à-dire que personne ne se soucie comme il se doit de la qualité de la recherche et de l'enseignement. Le fait même d'étudier, on oublie qu'un bon professeur est d'abord un étudiant, parce qu'il doit étudier toute sa vie. Et donc, si un professeur oublie qu'il doit étudier, il ne sera pas un bon professeur. Et donc, préparer les cours et étudier devient un luxe dans ce contexte bureaucratique qu'il faut négocier chaque jour avec les hiérarchies universitaires. Donc, de plus en plus, dans ce contexte, les étudiants deviennent des clients. Qu'est-ce qu'ils font, les étudiants ? Ils viennent acheter des diplômes. Et nous vendons des diplômes dans les universités. Insistant sur le caractère professionnalisant de l'instruction, les universités proposent aux jeunes des cours et des spécialisations avec la promesse d'obtenir immédiatement un emploi et un revenu alléchant. Alors moi, je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose, parce que le rôle de l'université et de l'école est justement le rôle de faire comprendre aux étudiants que ce n'est pas le diplôme le but du travail. Le but du travail, c'est de devenir meilleur. Et donc, après qu'il devient meilleur, peut obtenir un diplôme qui peut tranquillement faire valoir dans le marché. Mais ça, ce n'est pas le but, c'est un effet du fait que tu as bien travaillé, que tu as bien appris. Il y a une très belle poésie d'un poète Kavafi grec, appelé Ithac, cette poésie, où il dit, en réécrivant le mythe d'Ulysse, la chose plus importante, ce n'est pas d'arriver à Ithac, c'est le voyage que nous faisons, du point de départ au point d'arrivée. Et ce voyage-là qui nous rend meilleurs. Eh bien, le même discours vaut dans le domaine scientifique. Parce que moi, j'ai mis dans mon petit volume l'utilité de l'inutile un essai d'un grand scientifique, Abraham Flexner, qui est le fondateur de l'Institute for Advanced Study de Princeton. C'est une des institutions les plus importantes au monde. Il y a eu des gens comme Oppenheimer, comme Gödel, comme Einstein qui sont passés par là, grâce à la folie des nazis en Europe. Parce que le plus beau cadeau que les nazis ont pu faire aux États-Unis, c'est de faire échapper, de mettre en fuite les génies de l'époque pour les envoyer aux États-Unis. Eh bien, là aussi, aujourd'hui, l'argent arrive plus pour la recherche appliquée et pas pour la recherche de base. Et là, c'est un grave problème aussi pour les scientifiques. Moi, quand je vais dans les universités, je trouve des collègues qui travaillent dans le monde de la recherche scientifique qui me disent « c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'argent, il faut préparer un projet qui puisse avoir immédiatement une application sur le marché et il faut le faire dans des temps rapides. » La meilleure recherche, c'est l'application immédiate et dans des temps rapides. Eh bien, par exemple, quand les élèves, quand me posent la question, quand je pose moi-même la question aux élèves, qui a inventé la radio ? Tout le monde me dit Marconi. Mais les élèves oublient qu'avant Marconi, il y a eu deux fous qui s'appelaient Maxwell et Hertz, qui ont fait des études très important sur les ondes électromagnétiques. Et si quelqu'un aurait demandé à Maxwell et Hertz à quoi sert ce que vous êtes en train de faire, ils auraient répondu à rien pour connaître, pour apprendre. Mais sans Maxwell et sans Hertz, Marconi n'aurait inventé rien. Et ça, c'est un point important. Les choses estimées être inutiles sont devenues des choses qui ont produit les grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, pour revenir à mon discours, dans cette optique, les classiques sont une mine d'or pour comprendre les dangers d'une dictature du profit et de l'utilitarisme. Je lis toujours à mes élèves un passage d'un discours prononcé par David Foster Wallace. C'est un romancier américain qui est mort suicide, comme vous savez, s'est suicidé. Eh bien, c'est la petite histoire de deux jeunes poissons. Je vais vous lire cette petite histoire. C'est l'histoire de deux jeunes poissons qui nagent et croisent le chemin d'un poisson plus âgé que leur fait signe de la tête et leur dit « Salut les garçons, l'eau est bonne ?» Les deux jeunes poissons nagent encore un moment, puis l'un regarde l'autre et fait « Mais qu'est-ce que c'est l'eau ?» Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ce petit anecdote ? C'est que nous sommes exactement aujourd'hui comme les poissons. C'est-à-dire nous vivons dans la culture, sans savoir que sans la culture, on ne peut pas vivre. Et les poissons nagent dans l'eau sans savoir qu'est-ce que c'est l'eau. Et la culture est l'eau dans laquelle nous sommes. Mais nous ne la voyons pas. C'est pour ça que l'anecdote fait comprendre l'importance des choses soi-disant inutiles dans notre vie et dans notre société. Eh bien, nous n'avons pas conscience que la littérature et les savoirs humanistes, que la culture et l'instruction constituent le liquide amniotique idéal dans lequel seulement les idées de démocratie, de liberté, de justice, d'égalité, de tolérance, de solidarité, de bien commun peuvent se développer avec vigueur. La métaphore des poissons m'amène aussi à un autre texte magnifique que je lis toujours à mes étudiants. C'est un passage d'un livre qui a fait rêver des générations et des générations. C'est « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire du révolutionnaire colonel Buendía que, à un moment donné, après avoir fait une série de révolutions, il revient dans son petit village Macondo. Il s'enferme dans un cabinet dans la maison et il commence à fabriquer des petits poissons d'or. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique les poissons d'or, il vend les poissons d'or, il prend des monnaies d'or, il va fondre les monnaies d'or, il va faire encore plus de poissons d'or, et dans un cercle vicieux où sa mère, Ursula, se pose la question « Mais qu'est-ce qu'il gagne, mon fils ?» Regardez comment Gabriel Garcia Marquez nous explique ça. Avec son impitoyable sens pratique, Ursula ne pouvait pas comprendre le commerce du colonel, lequel échangeait ce petit poisson contre des pièces d'or, puis transformait les pièces d'or en petits poissons, ainsi de suite, si bien qu'il devait travailler davantage chaque fois qu'il vendait plus, afin de satisfaire à ce cercle vicieux particulièrement exaspérant. En vérité, ce n'était pas le commerce qui l'intéressait, mais le travail. Et ça, c'est un morceau inouï, c'est la force que la littérature peut avoir de nous faire voir des choses que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons plus dans notre vie de tous les jours. Je lis souvent à mes élèves un passage du Petit Prince, un livre que tout le monde a aimé, un livre qu'on dit qui est pour les enfants. Moi, je pense que c'est un livre plutôt pour les adultes. Je voudrais les imposer à tous les hommes et les femmes d'un certain âge, pas à les enfants. Vous savez, c'est un livre publié en 1943 à New York, un succès énorme. Eh bien, il y a un passage, déjà, dans les premiers chapitres du livre, où l'aviateur, qui après parlera avec le petit prince, avance une critique féroce des grandes personnes, c'est-à-dire les personnes âgées. Je vais vous lire le passage. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne des papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient, comme c'est joli. Je pense que c'est véritablement, non, dans ce petit discours du Petit Prince, de comprendre l'esprit malade dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et vous savez que les grands écrivains sont des prophètes, sont clairvoyants, ils voient très loin. Mais un autre discours très beau, c'est toujours dans le Petit Prince, où à un moment donné, le Petit Prince parle avec le renard. Et alors le renard lui fait comprendre que la chose importante dans la vie de relation entre les êtres, c'est de dédier du temps à quelque chose. Elle lui fait comprendre que la rose qu'il avait arrosée, qu'il avait protégée, c'était sa rose pour le temps qu'il avait dédié à sa rose. Entendez ce petit passage. « Adieu, dit le renard, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. » Et plus avant, le petit prince demande « Mais est-ce que les hommes ont des amis ?» Et le renard lui répond « Tu sais, les hommes n'ont jamais de temps. » Et alors, ils achètent tout déjà prêt. Ils rentrent dans un magasin. Il y a le dîner, il y a les choses qui sont déjà faites. Mais étant donné qu'il n'y a pas des marchands d'amis où tu peux acheter les amis, l'homme n'a plus d'amis. Et moi, je trouve que c'est une réflexion d'une beauté, d'une profondeur qui fait comprendre ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Eh bien, il suffit de lire encore un autre passage d'un texte de Eugène Ionesco, qui est un grand dramaturge très important, pour comprendre la folie d'une humanité désemparée ayant perdu le sens de la vie. Voilà la description, c'est une description qui peut regarder toutes les villes du monde aujourd'hui. Regardez les gens courir, affairés dans les rues. Ils ne regardent ni à droite ni à gauche, l'air préoccupé, les yeux fixés à terre, comme des chiens. Ils foncent tout droit, mais toujours sans regarder devant eux, car ils font le trajet connu à l'avance, machinalement. Dans toutes les grandes villes du monde, c'est pareil. L'homme moderne, universel, C'est l'homme pressé. Il n'a pas le temps. Il est prisonnier de la nécessité. Il ne comprend pas qu'une chose puisse ne pas être utile. Il ne comprend pas qu'une chose... Il ne comprend pas non plus que dans le fond, c'est l'utile qui peut être un poids inutile, accablant. Moi, je trouve que ces passages-là n'ont pas besoin d'avoir un commentaire. Ils sont très simples, directs. Ils font vibrer les corps du lecteur. Eh bien, la littérature est une façon de nous faire réfléchir sur le présent, est une façon de nous faire comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'il faut lire les classiques. Moi, je dis toujours aux élèves, si vous venez à l'université avec le but qu'il faut lire un classique pour prendre une note, pour superer un examen, il faut fermer les universités. Parce que d'abord, un classique doit être l'occasion pour comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, un des problèmes plus graves dans notre société, c'est le problème de l'identité. Pas seulement en Europe, aux États-Unis, partout, il y a ce sujet, qu'est-ce que c'est l'identité? Est-ce que l'identité est quelque chose qui est toujours la même et donc elle persiste dans le temps, ou bien l'identité change, peut avoir une mutation? Il faut lire une page très belle de Plutarque. Plutarque, comme vous savez, c'est un auteur grec très important. Et dans la vie de Thésée, il pose cette question d'une façon vraiment brillante. Vous connaissez l'histoire du mythe de Thésée. Thésée est envoyé par les citoyens d'Athènes à Crète pour tuer le Minotaure. Chaque année, Crète devait payer, devait envoyer des jeunes pour les faire mourir dans le labyrinthe du Minotaure. Thésée arrive à Crète, il tue le Minotaure, il rentre après avoir gagné et après avoir libéré Athènes d'un tribut de sang très important. Et alors, pour célébrer cette victoire, Athènes prend le bateau de Thésée et le met dans le port d'Athènes pour célébrer cette victoire. Pendant les années, le bateau, surtout les planches usées, lentement commence à être remplacé par d'autres planches. Et alors une partie du bateau est remplacée. Après, 10 ans après, il y a d'autres planches qui sont remplacées. 20 ans après, encore, il y a d'autres planches. Et il y a un moment, après un siècle, où toutes les planches du bateau sont remplacées. Question, est-ce que ce bateau est encore le bateau de Thésée ou ce n'est plus le bateau de Thésée? Et alors, la vieille question que Plutarque pose, c'est une façon de nous faire voir que seulement une personne qui n'a rien compris peut penser que l'identité d'un peuple est quelque chose de statique. Et ça arrive comme avec le bateau de Thésée. Moi, je suis né en Calabre, dans la Grande Grèce. Eh bien, moi, j'ai dans mon sang la culture grecque, latine, arabe, espagnole, française, normande. C'est-à-dire, la civilisation est une identité que, au fur et à mesure, tu vas substituer les planches usées, mais c'est le même bateau. Parce que c'est l'idée que l'identité est quelque chose qui reste, mais en même temps qui change. Et alors, vis-à-vis ces choses-là, il faudrait faire comprendre à des partis en Europe, et malheureusement, on a vu aussi aux États-Unis, qui deviennent des partis, moi je les appelle des entrepreneurs de la peur. Ils gagnent en mettant peur aux gens, en mettant les pauvres contre les pauvres, en disant on va fermer les portes aux immigrés, comme si l'état de souffrance aujourd'hui en Europe et dans le monde entier des gens dépendent directement des immigrés qui arrivent. Alors c'est des mensonges immenses, parce que tout le monde sait très bien que S'il y a aujourd'hui une crise, c'est une crise économique, mais c'est aussi une crise morale que nous avons. Parce que la corruption dans les pays est terrible. Je vous donne les données de mon pays en Italie. Chaque année, l'Italie dépense 70 milliards d'euros de corruption. Les immigrés coûtent 300 000 euros, 300 millions d'euros. C'est rien de tout par rapport à ça. Mais à la place de dire qu'il faudrait faire payer, par exemple, les impôts en Europe à Apple, Google, Amazon, vous savez que ces grandes entreprises ne payent pas les impôts chez nous. Parce qu'on a créé des paradis fiscaux partout. Au Luxembourg, on a créé des paradis fiscaux en Irlande. Alors moi, je trouve que c'est un scandale, ça, et pas le fait qu'il y a des émigrés qui viennent. Eh bien, il faudrait discuter encore sur d'autres choses. Mais les classiques, les avoirs inutiles, nous font comprendre que la connaissance constitue en elle-même un obstacle au fanatisme de toute puissance, de l'utilitarisme et de l'argent. Certes, avec l'argent, on peut tout acheter. Dans mon pays, c'est vrai. On achète les parlementaires. Il y a des procès pour ça. Les parlementaires sont payés par d'autres partis et ils passent d'un parti à l'autre. On achète les juges. On peut acheter le pouvoir, on peut acheter le succès. Chaque chose a son prix. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas acheter avec l'argent, c'est la connaissance. Et ça, c'est une chose magnifique. Pourquoi ? Parce que le prix à payer pour la connaissance est de toute autre nature. Si un riche arabe venait ici et demandait à mon collègue et ami Loris Petris, je te donne un chèque en blanc. Peux-tu me faire devenir un homme cultivé, un homme savant ? Et mon ami ne peut pas ouvrir la tête du cheikh et lui mettre le savoir dedans. Pourquoi ? Parce que le cheikh doit faire un effort que personne ne peut faire à sa place. Ce n'est pas l'argent, c'est ton effort qui te fait connaître. Et ça, c'est une chose magnifique. Mais il y a plus. Le savoir peut aussi être un défi contre les lois du marché, d'une autre manière encore. Parce que je peux partager, vous savez, dans la loi du marché, une loi simple. Si je rentre dans une boutique pour acheter de l'eau, le commerçant prend mon argent et perd l'eau. Moi, je prends l'eau et je perds mon argent. Ça, c'est l'exemple typique. Mais imaginons-nous ce petit miracle qui, chaque jour, nous pouvons vérifier dans une classe, dans une école, dans une université. Un professeur rentre dans une classe, il peut parler du théorème de Pythagore à ses élèves, il peut transmettre le théorème sans le perdre. Parce que pourquoi ? Parce que la culture n'appauvrit personne et une façon de s'enrichir. Mais je voudrais vous donner encore un troisième exemple. Et encore une fois, cet exemple vient d'un d'un homme de théâtre qui a écrit des textes magnifiques, prix Nobel, George Bernard Shaw. Il fait l'exemple de deux pommes que je voudrais actualiser ici à Neuchâtel. Alors, imaginez-vous que deux élèves de l'université de Neuchâtel sortent de la maison, chacun avec une pomme. Après, ils se retrouvent dans cette salle très belle, ils vont échanger les pommes. Le soir, ils rentrent à la maison, chacun avec une pomme. Changeons le cas de figure. Imaginez-vous deux élèves de l'université de Neuchâtel qui sortent de la maison, chacun avec une idée. Ils se retrouvent ici dans cette salle, ils échangent les idées. Le soir, ils vont rentrer à la maison, chacun avec deux idées. Et ça, c'est la force de la culture. Ça, c'est la force du savoir. C'est-à-dire, le savoir ne peut pas appauvrir. Le savoir est toujours quelque chose que nous pouvons partager avec les autres sans perdre rien et en croissant ensemble. Eh bien, à quelle heure je dois finir ? 7h ? 7h, 7h05, voilà. Donc je vais profiter des dernières 5 minutes pour conclure sur un point. J'aurais pu vous lire, je vais vous dire, d'autres exemples très beaux, mais il aurait fallu une séance plus longue. Mais parfois, dans les conférences que je donne, on me demande toujours, « Professeur, mais à votre avis, quel doit être le but principal de la connaissance, du savoir, de la littérature ?» Moi, je dis, c'est difficile de choisir une seule chose, non ? C'est difficile. Mais si je suis obligé à choisir une seule chose, je pense que la chose plus belle que nous pouvons faire dans les écoles, dans les universités et à travers la culture, c'est de faire comprendre aux gens que les hommes ne sont pas des îles. J'emploie une métaphore très belle employée par un grand poète anglais, John Donne. Et John Donne dit dans une méditation très belle, vous savez, les hommes ne sont pas des îles autonomes. C'est-à-dire, nous sommes un continent uni. Et la méditation, vous allez la reconnaître parce que c'est une méditation qu'a donné le titre à un des romans plus célèbres du XXe siècle. C'est le fameux roman de Hemingway, « Pour qui sonne le glas ». C'est un roman publié en 1940. John Donne est dans son lit. Il a eu une maladie terrible. Il est en train de souffrir. Donc, il sent la mort derrière lui. Et comme il arrive souvent, dans certains villages, je ne sais pas si en Suisse il y a cette tradition, mais chez nous, dans les petits villages, dans le sud d'Italie encore, la tradition existe, c'est que quand il y a quelqu'un dans le village qui est mort, les cloches de l'église sonnent à mort. Et tout le village sait que quelqu'un est mort. Eh bien, John Donne dit, quand j'entends sonner les glaces, les cloches, à mort, je me pose une question qui est une question erronée. Parce que je dis, pour qui sonne? Pour qui est en train de sonner la cloche? Eh bien, il dit, la cloche sonne pour moi. Pourquoi? Parce que quand elle est un être humain, est disparu, c'est une partie de moi qui s'en va. Si nous comprenons ça, nous pouvons comprendre des choses très importantes. Eh bien, je vais vous lire ce passage de John Donne. Il a publié en 1624 cette méditation. « Nul homme n'est une île, complète en elle-même. Chaque homme est un morceau du continent. » Une part de l'ensemble. Si un bout de terre est emporté par la mer, l'Europe en est amoindrie, comme si un promontoire l'était, comme si le manoir de tes amis ou le tien l'était. La mort de chaque homme me diminue, car je suis impliqué dans l'humanité. N'envoie donc jamais demander pour qui la cloche sonne. Elle sonne pour toi. Et je pense que cet hymne à la fraternité qui vient de John Donne, c'est quelque chose qui pourrait nous faire comprendre mieux le drame que nous sommes en train de vivre dans une société où on nous fait croire que la dignité de l'homme, c'est on peut la mesurer sur la base de l'argent que nous avons dans notre compte en banque. Ce n'est pas vrai. La dignité de l'homme, on la mesure avec les grandes valeurs que nous sommes capables d'embrasser. Et parmi ces valeurs, le valeur de la solidarité humaine, le valeur de pouvoir détruire son propre égoïsme est une chose importante. Ce n'est pas un hasard si au 19e siècle, un grand personnage, Victor Hugo, fait un discours au Parlement, à Paris, Et qu'est-ce qu'il dit, Victor Hugo, dans ce discours? Je vais vous lire le passage parce qu'il est très beau et je vais conclure avec ça. Un petit moment, je vais le retrouver tout de suite. Voilà, 86. Il y a le même problème que je pense que les hommes politiques vivent tous les jours. Si les gens qui travaillent dans les conseils d'administration de l'université, c'est-à-dire il faut couper le budget. Il faut couper le budget pour la culture, il faut couper le budget pour les bibliothèques, pour les écoles, pour les universités, pour l'enseignement, pour l'éducation. Et Victor Hugo prononce des mots qui sont très actuels aujourd'hui et qui nous font comprendre l'importance de les savoirs soi-disant inutiles. Mais si je vais ardemment, passionnément, le pain de l'ouvrier, le pain du travailleur, qui est mon frère, à côté du pain de la vie, je vais le pain de la pensée, qui est aussi le pain de la vie. Je vais multiplier le pain de l'esprit comme le pain du corps. Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l'on s'instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Je pense que ce discours de Victor Hugo, qui était tenu le 10 novembre 1848 à Paris, au Parlement, c'est un discours qu'il faudrait sculpter dans tous les parlements du monde. Merci.
Merci beaucoup, cher Nuccio, pour cette réflexion très stimulante et cette profession de foi sur des grands textes à la croisée de discours éthiques, de discours économiques et philosophiques. Nous avons le temps pour quelques questions. Nous avons deux micros ici. Merci de nous faire signe et d'attendre que le micro vous parvienne. Ici en haut.
Merci, bonsoir. J'ai bien apprécié votre conférence. Moi, j'ai une question qui m'est venue. Est-ce que vous utilisez parfois le mot écologie, pas comme idéologie, mais comme mécanisme, puisque effectivement, l'art, la culture, elle dépend aussi du milieu économique.
Je n'ai pas compris, le mot ?
Écologie.
Écologie.
Écologie comme le mécanisme, en fait, qui fait que la société fonctionne d'une certaine manière, et pas comme une idéologie, comme on pourrait le penser. Donc, est-ce que ce mot, vous pourriez l'utiliser dans ce que vous expliquez, dans le sens où la culture, il faut qu'elle vive, pour qu'elle vive, elle appartient à la société, et puis le monde économique aussi appartient à la société.
C'est-à-dire, la question que vous me posez, c'est si le mot écologie, oui, on pourrait l'employer pour décrire mon discours, disons.
Et pourrait être utilisé dans votre discours.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, vous savez, il y a aussi une façon d'employer le mot écologie dans plusieurs essais, pour une écologie de la littérature, pour une écologie de la philosophie, pour une écologie, bien sûr. C'est-à-dire, dans ce sens d'équilibre, de retrouver, comment dire, la façon de comprendre les éléments forts d'une discipline, d'une réalité, donc je pense qu'on pourrait l'employer, bien sûr. Moi, je ne l'emploie pas parce que ça ne rentre pas dans mon lexique, mais tout à fait possible de l'employer.
Merci.
Voilà.
Ah, vous entendez peut-être
Vous savez, ça ne mord pas. Hein?
Non, mais... ah. Ok. Alors, non, ma question, c'était, vous avez, peut-être vous l'avez expliqué dans votre livre, mieux, oui. Mais sur le concept de utilité, qu'est-ce que vous entendez pour utilité? Parce que vous l'avez connoté assez, de ce que j'ai un peu pu comprendre, assez négativement, de le fait que c'est lié à... Je ne sais pas, à l'économie, à, c'est plutôt l'utilité économique et à la déshumanisation qui. Oui, un peu comme ça. Et selon moi, je vois ça. Déjà, selon moi, il n'existe pas l'utilité en soi, mais il existe l'idée de l'utilité qui est plutôt, je pense, qu'elle est subjective, elle est contextuelle au lieu où elle vient utiliser. Elle est contextuelle aussi aux sociétés où elle vient utiliser, parce qu'ici en Europe, on a une certaine perception de ce que ça peut être utile. Mais si on va dans une... Mais déjà, je ne sais pas, entre la ville et la campagne, il y a différentes façons de concevoir l'utilité. Et, oui, et plus c'est arbitraire aussi comme mot, comme, c'est une catégorie, un mot qui vient utiliser un peu... Je ne sais pas.
Oui, oui, non, mais
je sais pas si vous, pouvez...
vous avez raison, dans le sens que le jeu de mots que j'emploie, c'est un jeu de mots justement pour essayer de remettre le point sur une question. Comme j'ai expliqué au début de ma conférence, c'est que l'utile ne peut pas être réduit seulement au profit. Je ne peux pas appeler seulement utile une chose qui doit produire du profit, qui doit... avoir, comment dire, une rentabilité immédiate. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont utiles et que nous avons perdu de vue. Par exemple, pourquoi la littérature peut être utile? Parce que la littérature peut nous faire réfléchir sur certaines choses qui concernent et qui regardent l'humanité. Et donc... si, à travers une page de littérature, l'humanité peut devenir plus humaine, si, à travers un tableau, l'humanité peut devenir plus humaine, si, à travers un morceau de musique, un concert, l'humanité peut devenir plus humaine, eh bien, je pense que ça, c'est une grande utilité qui ne peut pas être mesurée en termes d'argent, mais qui peut être mesurée en termes de valeur. Et donc, c'est ça l'idée d'utile. Après, c'est normal que chacun peut avoir des valeurs différentes. Mais moi, je voudrais discuter le sens d'utile avec des gens qui ne pensent pas que l'utile est seulement l'argent. Parce que le critère avec lequel aujourd'hui on ferme certaines chaires à l'université, il ne faut pas oublier une chose. La première chaire de littérature italienne en Europe... c'était ici, en Suisse, à l'École polytechnique de Zurich. Ils ont appelé le plus grand professeur de littérature italienne de l'époque, Francesco De Santis. C'est bizarre que le plus grand professeur de littérature italienne, De Santis, est appelé dans une école polytechnique à Zurich pour enseigner la littérature italienne à des ingénieurs. Si vous allez aujourd'hui encore à l'École polytechnique, il y a gravé sur un marbre la phrase du discours de De Sanctis qui disait « Il ne faut pas oublier une chose, avant d'être des ingénieurs, vous êtes des hommes et des femmes. » Et donc, comme vous savez, depuis 15 ans, la chaire de De Sanctis a été fermée à Zurich. Une chaire qui a duré pendant un siècle et demi, deux siècles presque, a été fermée. Parce que, quelle importance peut avoir la littérature dans une école polytechnique ? Alors, c'est ça la chose sur laquelle j'essaie de dire. C'est cette utilité qui est une utilité, entre guillemets, brutale. Parce que les gens qui avaient conçu une chaire de littérature italienne dans une école polytechnique, ils avaient une vision très large des savoirs. Et donc, c'est pour ça que moi, j'entends utile dans un sens différent par rapport à ce que dans notre société est considéré utile. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Je voudrais ajouter, non pas pour ajouter, faire un plus à ce que vous avez dit, mais pour confirmer ce que vous avez dit. Et je pense en particulier à votre image de Marconi et de ses deux prédécesseurs, sans qui Marconi n'aurait pas existé dans ce qu'il a découvert. C'est une déclaration de Louis Pasteur. Je parle dans mon domaine, je suis microbiologiste.
Ah, bien.
Et Louis Pasteur a dit, il n'y a pas de science appliquée, mais il y a des applications de la science. Wow. Et cette phrase, je l'ai répétée pendant 30 ans à mes étudiants. Voilà.
Je vous remercie et je vous demande après de me donner la référence. Oui. Parce que c'est très important pour moi. Merci beaucoup. Merci.
Merci pour la conférence. Ma question, ce serait concernant cette dynamique de civilisation, de société que vous dénoncez. À partir de quel moment dans l'histoire vous considérez que le point de rupture est arrivé? Est-ce que ce serait...
Alors, étant donné que les micros me renvoient une voix un petit peu amplifiée, si vous pouvez parler plus doucement, oui. Comme ça je peux saisir mieux les D'accord. mots. Parce que sinon ça m'arrive... Oui, merci.
Concernant la dynamique de société que vous dénoncez, donc, qui est omnibulée par l'utilité et le matérialisme, est-ce que vous considérez que le point de rupture il est plutôt la transition de monarchie à république, ou est-ce que vous avez plutôt... un autre point de rupture en tête?
Vous dites monarchie ou république comme point de rupture?
Du passer du bois à l'utile, par exemple.
Moi, je ne crois pas. Peut-être, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre véritablement à une question si précise comme ça. Je pense plutôt que le moment de rupture a été là où... la société a pu voir seulement dans l'argent, et donc, parce que ça a toujours existé, hein. Au 19e siècle, par exemple, il y a une polémique en France très très forte, Théophile Gautier écrit des choses très belles sur l'utilitarisme à cette époque-là, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés vraiment à un point où, la radicalisation de ce discours est devenue très très forte. Parce que moi, je n'ai jamais vu, quand j'étais étudiant à l'université, quelqu'un qui pouvait dire qu'on enlève le grec et le latin parce que ce sont des langues inutiles. Des débats comme ça, à mon époque, je pense que... Il y a des collègues ici qui peuvent avoir la même sensation que moi. Mais à partir d'un moment donné, quand les universités, après Bologne et tout, ils ont eu cette idée qu'ils doivent se transformer dans une entreprise, et alors là, disons, la situation a précipité d'une façon terrible.
Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un lien avec la religion, une autorité divine ou un problème d'autorité, tout simplement, au niveau des fondations, au niveau d'une direction qui n'est pas claire pour une civilisation?
Vous dites la religion. Mm-hmm. Dans quel sens?
Dans le sens où, quand il y a une autorité divine, il y a une cohésion au niveau civilisationnel qui fait que les gens ont un intérêt en commun, qu'il n'y aurait pas forcément aujourd'hui, parce qu'il y a une crise un peu de l'autorité.
Non, je...
Idéologie.
Bien sûr... La religion peut être une réponse, par exemple, à une crise de valeurs que nous avons aujourd'hui dans notre société. Parce que moi, je ne crois pas, par exemple, ça c'est un débat que j'ai eu plusieurs fois avec, des cardinaux ou des gens de l'Église qui disent, par exemple, là où il n'y a pas la foi, tu as des hommes sans valeur. Moi, je pense que ça, c'est une erreur énorme. Quand j'étais jeune, j'avais une phrase que j'avais coupée et mise sur le mur de ma chambre, parce qu'à l'université de Calabre, il y avait des chambres d'étudiants, et moi, j'étais là, à la maison de l'étudiant, et il y avait une phrase de Einstein, qui, comme vous savez, n'était pas croyant. Et Einstein disait, « Seule une vie vécue pour les autres » est une vie qui mérite d'être vécue. Moi, je pense qu'il y a aussi des valeurs laïques qui peuvent donner un sens à la vie de la même façon. Donc, aujourd'hui, la religion, ce qui est en train de provoquer, et j'en parle dans mon livre, c'est le problème du fanatisme. Ça, c'est une chose grave. C'est-à-dire tous les gens qui croient de posséder la vérité, après, essayent de l'imposer aux autres. Et le but véritable de la littérature, de la philosophie, de l'art, de la culture en général, c'est toujours de montrer que ce que je pense et ce que je crois, ce n'est pas la vérité ultime. Moi, j'ai besoin toujours de l'autre. Et les chercheurs savent que un chercheur dans le domaine scientifique a besoin de quelqu'un qui lui dit « Là, tu te trompes. Là, tu as fait une erreur. » C'est le doute qui fait progresser. La profession de foi, c'est admettre sans raison et sans démonstration que j'accepte ça et point. Voilà. Merci.
Vous avez cité Albert Einstein et à juste titre, c'est un très bon exemple effectivement parce que on sait très bien qu'Albert Einstein il a travaillé toute sa vie pour la physique théorique. Et la physique théorique n'a servi à rien pendant très très longtemps et on sait très bien aujourd'hui quelles sont les applications de cette physique qu'il a sortie de son cerveau et qu'est-ce que ça a donné à l'humanité aujourd'hui. Donc je voulais juste rajouter ce petit point.
Je vous remercie parce que il y a un livre très beau qui vient de sortir par des chercheurs du Max Planck de Berlin, où j'étais visiting professor pendant 3 printemps. Donc j'ai travaillé beaucoup avec cette section du Max Planck, c'est Wissenschaftsgeschichte, c'est la section d'histoire des sciences. Et là, ils ont montré une chose très intéressante, que le moment où Einstein a conçu ses idées sur... la formule de la relativité et tout, c'était le moment où il participait à des discours de l'Academia Olympia, comme on l'appelait, où on parlait de Cervantes, de philosophie, de toute une série de choses qui n'avaient rien à voir spécifiquement avec le domaine sur lequel il travaillait. Et je pense que qui fait la recherche, comme nous, il le sait. Les meilleures choses que j'ai apprises pour écrire mes livres dans ma spécialisation, je les ai appris dans des livres qui n'avaient rien à voir avec les choses que j'étais en train d'étudier. Et ça, c'est le miracle des relations. Donc, je vous remercie beaucoup.
Oui, alors, puisqu'on a parlé de la connaissance, je voulais savoir, que pensez-vous de l'utilité de l'oubli ?
L'utilité de ?
L'oubli.
L'oubli.
Oui.
Ah, ça, c'est comme... vaste programme. C'est difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on entend pour oubli ? Dans le sens que oubli, c'est un mot auquel nous pouvons donner plusieurs sens. C'est polysémique. Donc, alors, par exemple, si par oubli nous entendons la façon que nous pouvons avoir, par exemple, aujourd'hui, dans Internet, de naviguer, d'essayer d'oublier les choses que nous voyons et qui ne nous intéressent pas, c'est une bonne chose. Mais moi, je suis partisan de la mémoire et pas de l'oubli. Et donc, je pense que le drame d'aujourd'hui, c'est que nous allons gommer la mémoire. Et comment nous allons gommer la mémoire ? Quand nous disons aux jeunes, d'une façon erronée, c'est le futur qui compte, ce n'est pas le passé. Donc, il faut regarder avant. Alors moi, c'est une erreur immense, celle-là. Parce que je donne toujours l'exemple de l'arbre. Parce qu'un jour, un monsieur m'a dit, « Ah, monsieur, mais vous regardez, dans l'arbre, la chose plus importante sont les rameaux, on dit ?» Les branches, oui, pardon, excusez-moi. Les branches, parfois j'emploie des faux amis, sont les branches nouvelles qui sortent. C'est vrai. Mais essayez de faire sortir les branches nouvelles si vous coupez les racines de l'arbre. Comment ça va se passer ? C'est pour ça que quand je pense que... Parce que quelqu'un peut dire, mais... Nucho, mais pourquoi tu t'agites pour le fait qu'on coupe la chair de sanskrit ? Au fond, le sanskrit, c'est 10 personnes qui l'étudient au monde. Pourquoi tu t'agites ? Moi, je m'agite parce que il y arrivera un moment, Si on coupe le sanskrit, si on coupe le grec, si on coupe le latin, parce qu'après ça sera d'une chose à l'autre, que nous avons un monde sans mémoire. C'est-à-dire, quand seront finies les dernières personnes qui connaissent le sanskrit, le grec et le latin, devant une découverte dans n'importe quelle partie du monde, d'un monument, d'une inscription, il n'y aura personne pour pouvoir la lire. Il faudrait faire, à ce moment-là, il faut fermer les bibliothèques. Parce que dans les bibliothèques, pour lire certains livres, il faut acquérir la langue. Personne ne sera capable de lire les documents de cette ville, par exemple, de l'histoire de Neuchâtel. J'ai eu le plaisir de visiter le fond de Rousseau que vous avez là. Eh bien, Rousseau avait une écriture très belle, très simple, très claire. Mais je peux vous dire qu'il y a des choses dans certains manuscrits du XVIIe, du XVIe siècle où il faut des experts de paléographie pour lire. Et si vous allez perdre ces disciplines, qui fait plus la paléographie dans les universités? Ça, c'est un drame. Nous allons gommer tout le passé. Nous allons former une humanité ignorante. Une humanité qui perdra le sens de sa propre identité. Parce que pour savoir qui nous sommes, il faut connaître le passé. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je me préoccupe. Merci.
Nous avons le temps pour une dernière question.
Excuse-moi, professeur, mais je vais vous faire une question très subtile, parce que j'aimerais une spoiler. Au début, c'était l'utilité et l'inutile. Maintenant, c'est une année avec les classiques. Entre les deux, c'était le controverse dans le Corriere della Sera. Qu'est-ce que c'est la prochaine chose que vous voulez faire dans votre mission pour défendre l'utilité?
Ah oui, mais là... chacun de nous n'arrête jamais de faire son propre travail. Moi, alors, si je dois dire vraiment, moi, je me suis interrogé plusieurs fois sur le sens de ma... Je n'appelle pas le professeur une profession, un métier. Je pense qu'un professeur accomplit une vocation. Donc, c'est une erreur immense de penser que nous faisons un métier. Ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Et je pense que la chose plus belle dans ce que nous faisons tous les jours, c'est le rapport avec les étudiants. Et je pense que ce rapport est en train de se perdre dans cette nouvelle vision de l'université, de l'enseignement. Et je l'ai lu hier, mais je voudrais la lire pour les autres qui ne la connaissent pas. Il y a une lettre qui m'a toujours donné le sens de ce que doit être l'enseignement. C'est une lettre qui donne le sens de la partie plus importante du travail dans l'école et dans l'université. 1957, Albert Camus. Il reçoit le prix Nobel. Novembre. Il fait deux choses. Il envoie une lettre à sa mère, semi-analphabète. Et 10 jours après, il écrit une lettre à son professeur de l'école moyenne, son instituteur, Louis Germain. Albert Camus venait d'une famille très pauvre. Il habitait l'Algérie. Il était à Alger. À la fin de la colle moyenne, il était destiné au travail parce que sa grand-mère et sa mère avaient besoin d'argent. Et alors le professeur dit à Albert, « Albert, mais tu dois continuer tes études. » Elle dit, « Professeur, impossible. Ma mère et ma grand-mère ont décidé que je dois travailler. » Elle a dit, « Mais c'est impossible. » « Non. » Il a dit, « Je dois travailler pour la famille. » Alors Germain prend le bus, va à la maison. Il était orphelin, Camus, parce que son père était mort dans la Première Guerre mondiale. Alors il se rend compte de la pauvreté de cette famille. Et la grand-mère dit, analphabète, dit, professeur, mais qui va préparer notre enfant pour le concours du lycée? Parce qu'avec le concours, il aurait pu avoir la bourse qui aurait pu lui permettre de fréquenter 5 ans le lycée sans payer. gratuitement. Et Germaine dit, c'est moi, je veux le faire moi, gratuitement. Le jour du prix Nobel, le moment plus important dans la vie d'un écrivain, c'est la récompense plus grande qu'on puisse avoir. La pensée, c'est à la mère et au professeur. Et je voudrais vous lire trois lignes de cette lettre, parce que vraiment, c'est quelque chose qui donne le sens de ce que les universités et les écoles doivent faire. Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand je n'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Et je pense que ça, c'est la plus belle récompense qu'un professeur puisse avoir. Et je pense que la relation qu'il faut concevoir entre un élève et un professeur, c'est exactement sur ce point-là. C'est-à-dire que moi, je crois, néanmoins, moi je suis pessimiste pour certaines choses, mais je continue à croire qu'un bon professeur, un bon livre, un bon concert, un bon tableau peuvent changer la vie d'une personne. Moi, je l'ai vu sur moi-même. Moi, je suis né dans une petite ville du sud d'Italie, dans un village où il n'y avait pas de bibliothèque, pas de livres, il n'y avait rien. Mon père et ma mère avaient étudié jusqu'à l'école moyenne. Chez moi, il n'y avait pas un livre. Sans l'école, je n'aurais pu pas faire ce que j'ai fait. Donc je comprends très bien la lettre d'Albert Camus. Et c'est cette reconnaissance vis-à-vis de la culture, cette reconnaissance vis-à-vis de l'école et l'université est importante là où les écoles et l'université peuvent changer les vies des étudiants. Sinon, ça ne sert à rien. Merci.
Merci infiniment, cher Nuccio, d'avoir partagé ces réflexions avec nous et de nous avoir rappelé l'importance de la connaissance, oui, mais d'une connaissance partagée avec les autres. À peu près un peu plus de 400 ans avant cette lettre de Camus, Rabelais écrit en grec une lettre très émouvante à Erasme, où il dit « Erasme, tu es ma mère parce que c'est toi qui as enfanté mon esprit ». Et on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre ces deux lettres. Merci d'avoir partagé ces textes, ces réflexions et autour d'idées très stimulantes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Il me reste, mesdames et messieurs, à vous convier à un apéritif qui sera offert ici dans le hall en vous remerciant de votre participation ce soir. À bientôt ou à tout de suite.